Nous sommes arrivés à commencer une nouvelle série. Ça fait déjà trois semaines, le troisième message. Vivant et en adorant. On est dans le livre de 1 Samuel, dans l'Ancien Testament. Et la phrase qu'on a pour cette série, c'est la suivante. La vie que Dieu nous donne doit être vécue en complète confiance et en regardant les difficultés comme des occasions de rapprochement au trône de sa grâce, pour trouver l'aide nécessaire et ainsi, lui rendre gloire. Le verset biblique qui vient avec, c'est « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » C'est Jésus qui exprime ces mots-là. Nous sommes arrivés à un moment de notre passage où j'expliquais la toute première fois. Le peuple d'Israël était dans un moment difficile de leur vie. Et il avait beaucoup de péchés qui tournaient. Et on va voir comment Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Et vivre en adorant, ça veut dire que évidemment, je dois mettre ma vie dedans. Ce n'est pas simplement écouter, c'est de vivre. Parce que sinon, c'est vivre en hypocrisie. Donc ici, on va voir comment il y a quelqu'un qui va se lever. En l'occasion Samuel, on va parler de lui maintenant, ça va être encore plus clair maintenant. Mais Samuel va devenir quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important pour la vie du peuple d'Israël et pour les gens qui l'écoutaient. Mais comment il est arrivé à cela? Et il a expérimenté aussi, il a exprimé. Je vais vous expliquer pourquoi ce titre-là. Mais avant de commencer, il y a des gens qui ont des problèmes d'audition, même le tout petit. Parfois, on voit dans les vidéos que les médecins arrivent à mettre quelque chose, un appareil, et finalement, quand ils entendent quelque chose, leurs yeux s'ouvrent. Et quand il entend la voix du papa ou la voix de la maman, et c'est incroyable, c'est quelque chose d'extraordinaire pour eux. Et ils commencent à expérimenter une nouvelle chose. Mais aussi, ils vont exprimer avec joie ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Alors, on va arriver à un moment où le peuple d'Israël n'expérimentait plus la parole de Dieu. Il l'exprimait plus parce qu'il n'avait pas de bons enseignements dedans. On va arriver tout de suite. Donc, on s'est marqué, on va lire tout le chapitre 3. Il n'y a pas beaucoup de versets. On va commencer simplement dans le verset 1, pour l'instant, de chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. On l'avait vu déjà auparavant. Devant Élie. Élie, c'était le responsable spirituel de ce moment-là pour le peuple d'Israël. La parole de l'Éternel, ou de Dieu, était rare en ces temps. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc la parole de Dieu n'était révélée par personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui était capable de recevoir et de la donner comme il fallait. Donc, expérimenter, exprimer quoi? Je mets comment? La saine doctrine. Alors, quand on parle de saine, on parle qui n'est pas malade. D'accord? Toujours, on fait la différence entre quelque chose qui est sain, quelque chose qui est malade. Alors, aujourd'hui, nous sommes envahis des gens qui proclament Dieu et nous disent qu'ils parlent au nom de Dieu. Mais leur vie et ce qu'ils expriment n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La saine doctrine est celle qui nous ramène vers Dieu et pas vers un homme ou vers une association. La saine doctrine nous pousse à grandir et à partager notre vécu avec les autres, pas à le garder pour nous. Je ne veux pas vous lire tout ce que j'avais prévu. Mais si vous voulez chercher après, Ézéchiel chapitre 22, verset 23 à 31. Donc il y a une vision qui arrive à la vie de Ézéchiel. Ézéchiel est tâché de le dire. Pas simplement de le recevoir, mais de le dire, de l'exprimer. Et dans ce moment, Dieu dit, je vais anéantir le peuple d'Israël parce qu'ils n'ont pas à me suivre, etc., etc. Et dans ce moment, l'Éternel dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouvais point. Il n'y avait personne capable de pouvoir recevoir la révélation de Dieu et pouvoir la partager pour que Dieu puisse mettre fin à cette colère qu'il avait. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5, dit ceci. Je t'en conjure, il parle à Timothée, hein, le jeune Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, pardon, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous voyez, ce n'est pas simplement quelque chose que moi j'invente, c'est la parole de Dieu qui le dit. La saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes ces choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, mes amis, je pourrais éventuellement dire et parler. Mais comment vous savez que je suis en train ou que la personne qui est ici parle la vérité? Il faut aller où? À la source. C'est ça, aussi simple que ça. Aujourd'hui, on est envahi sur Internet. Envahi. Et je lis et je écoute beaucoup. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont très charismatiques. Très charismatiques. Et vous pouvez voir comment, avec leurs paroles, ils vous prennent et ils nous mettent tous dans leur poche. Pourquoi? Parce qu'ils parlent des choses qui vont au cœur et qu'ils te encouragent et tout ça. Mais il est où la vérité? Est-ce qu'ils parlent au nom de Dieu? Est-ce que la Bible est leur gardien? Quand ils disent quelque chose, est-ce qu'il y a un verset derrière tout cela? Est-ce que le verset est dans son contexte? Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Dans ce moment-là, il n'y avait pas la saine doctrine. Il n'y avait pas une direction pour le peuple. Mais, et j'aime bien le mais Dieu avait gardé quelqu'un. Et Dieu va toujours garder quelqu'un. C'est passé avec Élie. Le prophète Élie, pas ce qu'on voit ici dans 1 Samuel, mais le prophète Élie qui a fait tout cette... Dieu a fait à travers Élie cette chose extraordinaire, que le feu est venu, il a brûlé même les pierres. Et plus tard, après avoir vu tout ça, Élie a peur. Il se cache dans une grotte. Et il dit, non, mais il y a plus de prophètes, il n'y a plus de personnes qui vont faire la même chose que moi. Et l'Éternel, Dieu, dit quoi? Ah, tu n'es pas le seul. J'ai encore 4 000 ou 3 000. Il y avait beaucoup qui avaient gardé la foi. Mais ici, il va garder qui? On vient de le lire. Donc, simplement, le tout premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Samuel dormait dans le tabernacle. Souvenez-vous que le temple n'était pas érigé ou construit dans ce moment-là. C'était plus tard, avec le roi Salomon. Il y avait une autre façon de laquelle Dieu montrait sa gloire, c'était dans le tabernacle. Donc Samuel était là au service de l'Éternel. Alors, Dieu va utiliser Samuel, mais comment va l'utiliser? Il va lui apprendre quoi? À lui écouter, à écouter Dieu. verset 2 à verset 10 de 1 Samuel 3. En ces temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, donc est devenu aveugle, il ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie, il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Je veux dormir. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Cet événement est extraordinaire. Pourquoi? Parce que pour trois fois, Pouvoili était embêté, il voulait dormir, et Samuel vient l'embêter et le réveiller. Mais c'était marqué, Samuel ne comprenait pas qui était cette voix-là. Mais je ne sais pas si vous avez vu et spécifiquement, je vais simplement revenir en arrière, et par trois fois, c'est marqué que l'Éternel appela de nouveau Samuel. Si vous voyez le verset 10, l'Éternel vint et se présenta. Ce n'était pas simplement la voix. Il est venu se présenter lui-même pour parler avec lui. Mais Élie était là pour apprendre à comment écouter la voix de Dieu. Alors, comment écouter la voix de Dieu? La Bible dit en Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4, la chose suivante. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Nous a parlé, pardon, par le Fils, qu'il a établi et héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc nous avons la révélation de Dieu à travers de Jésus, son Fils. Il nous a laissé, même à travers sa vie, que nous trouvons dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, tout ce qu'il a voulu nous laisser pour nous apprendre. Et même Jésus a validé les écrits de Moïse. Même dans un moment, Jésus dit, Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il connaissait Abraham. Il montre qu'il était Dieu. Il était avant Abraham. D'accord? Donc Dieu, Jésus même, il dit, je suis Dieu, j'étais là, je valide tout cela. Donc, si Dieu nous a parlé à travers Jésus, Dieu nous laisse sa parole. Pourquoi? Pour la comprendre, pour l'écouter. Et comment l'écouter? Avec une lecture, avec la mémorisation, avec la contemplation, avec l'étude de la parole de Dieu. Alors, je sais que vous m'entendez le dire plusieurs fois, et l'étude de la parole de Dieu, c'est essentiel. C'est essentiel. Mes amis, je sais que je le répète, mais je veux le redire. Ce n'est pas simplement quand on vient une fois par semaine, le dimanche, qu'on va comprendre, qu'on va savoir toute la vérité de comment et voir si ce qu'ils le disent à l'extérieur, c'est vrai ou pas. Il faut passer plus de temps dans la prière. Il faut passer plus de temps dans l'étude de la parole de Dieu pour savoir si je suis en train de tomber dans ce mensonge. Comment savoir si cette prédicateur, ce message aujourd'hui que je suis en train de vous donner, il est vrai? Allez le voir, s'il vous plaît. Je vous en prie, allez revoir, relire tout ce que je suis en train de vous dire. Et ce même message, ça va être sur le site internet. Et je ne fais pas la pub pour que vous veniez sur notre site, ce n'est pas ça. Simplement pour vous dire, vous êtes responsable de votre vie. Je suis responsable de ma vie. Et Dieu est en train de voir ce message, ce moment-là, pour notre bien. Pour que la vérité puisse être dite. Et surtout, pour que je puisse écouter Dieu. Samuel ne savait pas tant que Dieu ne s'est pas présenté. Maintenant, Jésus s'est présenté. Comment il s'est présenté? Comment un enfant? Jésus est né de Marie. Il a vécu une vie sans péché. Il est mort à la croix. Il est ressuscité pour nous dire, je suis Dieu. Je suis là pour vous montrer la vérité. Comment reconnaître les enseignements incorrects si nous ne lisons qu'une fois par semaine ou quelques fois par semaine la parole de Dieu? Comment réagir correctement à une situation selon ce que Dieu dit? Comment savoir si mes émotions sont alignées à la Bible selon ce que Dieu dit? L'étude est une partie essentielle de la vie chrétienne, comme la relation les uns avec les autres, avec lesquels nous pouvons faire des échanges de ce que Dieu dit dans sa parole, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de A à Z. Pas seulement ce que je veux que la Bible me dise. Quelqu'un a écrit une phrase, il dit la suivante, la chose suivante. La Bible est le moyen divin pour développer la maturité spirituelle. Il n'y a pas d'autre moyen ni une autre manière. La Bible est le moyen divin pour développer la maturité spirituelle. Il n'y a pas d'autre moyen ni d'autre manière. Si je veux savoir qu'est-ce quelque chose qui est bon ou pas, je ouvre la parole de Dieu. Je veux savoir ce qu'ils sont en train de dire à la télé, c'est vrai ou pas. Si mes amis, ce qu'ils me disent, c'est vrai ou pas, ce n'est pas ma conscience, c'est ce que Dieu dit. Parce que si je crois que Dieu est la vérité totale, la vérité complète, je lui fais confiance. Et si lui, il dit que ce que le monde me dit est incorrect, je dois me mettre de ce côté-là. Parce que sinon, j'accepte ces mensonges-là. Et l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 15, il va à dire, si nous croyons dans un mensonge, si, et c'est une hyperbole, donc il dit, si, et si la résurrection de Jésus est un mensonge, nous tous, on est là, il y a une mort. Est en train de croire de son mensonge. Mais si nous croyons à ce Dieu qui est vivant, nous sommes là pour une vérité. Et la vérité va toujours gagner au mensonge. La lumière va toujours gagner sur l'obscurité. Et notre ennemi, Satan, veut qu'on vive dans le brouillard, dans l'obscurité, qu'on ne voit pas la vérité. Mais Dieu, la Bible dit que Dieu est lumière et rien ne peut se cacher de lui. Donc Samuel a appris à écouter Dieu. Et pour savoir comment écouter Dieu, il faut que l'Esprit Saint habite en nous, vient habiter en nous. Et comment cela c'est possible? Quand on accepte Christ comme sauveur personnel. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Et comment accepte Christ comme sauveur personnel? Dieu a fait tout déjà pour nous. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour toi et pour moi. Il est ressuscité pour nous dire, je suis là. Je suis vivant. Tous les autres leaders religieux, ils sont encore dans leur tombeau. Les seuls qui ont ressuscité, c'est Christ. Donc on a un Dieu vivant. Et ce n'est pas simplement une fable, c'est une vérité. Même documenté dans l'histoire, si on veut chercher dans l'histoire aussi. Donc, expérimenter et exprimer. Expérimenter la vérité de Dieu comme Dieu nous parle, ça nous fait l'exprimer et vivre dans la vérité. Et si quelqu'un vient et te dit, Dieu m'a dit quelque chose pour toi, on peut dire comment? On ne dit pas non, parce que peut-être c'est Dieu. Mais on dit, montre-moi avec la Bible. Montre-moi avec la Bible. Montre-moi comment tu es arrivé à me dire, Dieu t'a dit pour moi. Vous savez, dans l'Antiquité, le peuple d'Israël, si un prophète ou quelqu'un disait, Dieu a dit quelque chose, et cela ne s'accomplissait pas, à cette personne, soit homme ou femme, si les choses ne s'accomplissaient pas, il mourait. Il mourait. Pourquoi ? Pour mensonge. Donc, si quelqu'un vient me dire, Dieu m'a dit pour toi quelque chose, ok, mais comment c'est arrivé? Qu'est-ce que Dieu veut me dire, moi? Si Dieu veut t'utiliser, super. Dieu veut utiliser une personne. Dieu peut utiliser une personne pour me guider vers lui. Si, comme il utilise aujourd'hui sa parole, la Bible, à travers des personnages bibliques. Mais tout doit être affirmé à travers la parole de Dieu. Alors, dans cette révélation que reçoit Samuel, il a expérimenté, mais il va exprimer quoi aussi? La vérité. La vérité. Lisons ce que il reste en de chapitre 3. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler à Samuel. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai à chercherai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils sont rendus méprisables. Sans quoi? Sans qu'il les ait réprimés. La semaine dernière, on parlait de ça. Donc Élie aussi était aussi responsable que ses enfants agissent comme cela. Attention, mes enfants, ne faites pas ça. Dieu, si on pêche contre Dieu, ça peut être difficile, ça peut être très compliqué pour vous. Mais faites attention. Il n'a pas allé plus loin de dire, basta, c'est pas comme ça. C'est marqué quoi? Sans qu'il essaie de réprimander. Et malheureusement, Dieu a accompli son désigne. Il a dit sur eux, on le voit dans le livre des juges, comme il était déplacé du poste sacerdotal. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis s'y ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils, il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il te dit. Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce que lui te sembla bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan à Beersheba, enfin tout le territoire d'Israël, reconnut que Samuel était établi prophète en Israël, de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Ici, nous voyons que Samuel reçoit une parole de la part de Dieu et qui lui fait trembler dans le sens de « Wow, je viens de comprendre comment tu parles et déjà tu me donnes un jugement contre quelqu'un. » Mais avec beaucoup d'insistance, et il va révéler le fait qu'ils vont s'accomplir dans la vie d'Élie. parfois nous pouvons croire que et on doit être confronté avec la parole de Dieu, avec la vérité, pour nous secouer. Chaque fois que j'étais confronté à prendre une décision pour le lycée, je parle de ma vie, soit pour une sortie, soit pour faire quoi que ce soit, pour une fête, mon père me ramenait à réfléchir et à prendre mes propres décisions devant Dieu, et cela m'a épargné de beaucoup de douleurs. Toujours avec la vérité de Dieu. J'avais avec ma vérité. C'est la vérité qu'il m'avait appris à comment écouter Dieu. Chaque fois que nous donnons un conseil ou nous savons que Dieu nous encourage à donner un conseil à quelqu'un, que cela se vérifie avec la parole de Dieu, mais il faut dire la vérité. Il faut la dire avec du tact, avec patience, mais il faut dire la vérité. Pourquoi? Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'au à partager l'âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Si nous croyons que la parole de Dieu est celle qui guérit l'âme, mais aussi qu'il corrige notre comportement et parfois les choses doivent être dites avec amour, sans tourner autour de peau. La Bible dit que nous, directement, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Point. Quand on parle avec nos enfants, on est direct, n'est-ce pas? Pourquoi tu as fait ça? Il y a une discipline à cause de ça. Et une punition à cause de ça. Mais on le fait avec amour. Quand Dieu parle à l'humanité, il dit... Je vous donne la solution. Me voici. Il le fait avec amour. Il a fait à la croix. Avec son sang. Et quand on veut parler avec quelqu'un, il vous dit, il faut parler avec la vérité. En face. Pas de donner de coups de Bible sur la personne. Mais y aller avec amour et dire tout de suite la vérité. Ce que m'impressionne de tout cela... Les derniers trois versets, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Mais qu'est-ce qu'il dit en premier? L'Éternel était avec lui. Il passait du temps avec l'Éternel. Et ce que Samuel disait, l'Éternel était le validé derrière. Pourquoi? Parce qu'il parlait le langage de Dieu. Et quel est le langage de Dieu? Ici et puis. Mais c'est pas simplement cela, c'est que son témoignage était reconnu. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Il y avait une position. Pourquoi? Parce qu'il parlait la vérité de Dieu. Et le dernier verset, l'Éternel continue à apparaître dans Silo, spécifiquement là. Car l'Éternel se révélait que à Samuel ou à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Par rapport à l'Éternel. Dieu nous a laissé sa parole pour mettre le cadre dans les choses qui sont dites. Car sinon, comme malheureusement arrive aujourd'hui, nous avons des prophètes qui disent parler au nom de Dieu et seulement vivre pour leur capacité à convaincre les gens. Ils profitent de la crainte de l'Éternel que les gens ont pour les manipuler à leur avantage. Quel est à qui on entend-nous? Est-ce que les gens autour de nous savent que nous parlons des choses cash, comme on dit, diète? Est-ce que les gens autour de nous voient Dieu en nous? Encore une fois, pas seulement avec une Bible, parce que parfois on ne va pas avoir la Bible tout le temps sur nos bras. On a nos téléphones. Mais ils savent qu'ils peuvent trouver la vérité dans nos lèvres. Parce qu'il vient de la part de Dieu. Nous avons devant nous une tâche extraordinaire, une mission extraordinaire. Celle d'apprendre à écouter et de parler en conséquence de ce que nous avons entendu. Ici, Samuel, l'auteur, nous met le défi d'écouter avec le but d'obéir. Pour expérimenter et exprimer la voix de Dieu envers les uns les autres. Les uns les autres. Dans un moment, et on termine avec ça, dans un moment, et il y a la parole de Dieu qui vient vers Ésaïe. Et Ésaïe voit quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Donc des anges, et des chérubins, etc. Et à ce moment, Ésaïe dit, je suis pécheur, je ne peux pas arriver à voir tout cela parce que je suis pécheur. C'est trop pour moi. La Bible dit qu'il y a un ange qui vient, il touche sa lèvre avec un charbon ardent et que dit, maintenant tu es purifié, tu peux parler. Dieu nous a purifiés à travers son Fils. Pour ceux qui connaissent Fils comme son personnel, on est purifiés par lui. Il arrive à Ésaïe, et Dieu commence à parler à Ésaïe. Il dit, mes saints des séraphins, voilà vers moi, tenant à la main une pierre ardente qui avait pris sous l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Quoi ? Mais voici, envoie-moi. » Et l'appel de Dieu ce matin, c'est qui va être là ? Comme Samuel. Je veux me lever pour écouter la voix de Dieu. Je veux prendre du temps pour écouter la voix de Dieu. Je veux être prêt à écouter. Je veux être prêt à passer mes pensées à travers le filtre de la parole de Dieu. Parce que je peux dire tout et n'importe quoi. Et peut-être les gens, parce que c'est Joël, parce qu'il y a deux ou trois diplômes, il devrait dire la vérité. Ou il doit dire la vérité. Non, parce que c'est cette pasteur dans cette église, dans le sud de la France, ou dans le nord de la France, ou dans l'est de la France, n'importe, ou dans le monde. C'est une méga church, une méga église. Donc s'il y a beaucoup de gens, s'il y a plus de 100 personnes, plus de 500 personnes, ça veut dire que ça marche? Non, pas forcément. Ça veut dire que simplement, pardonnez-moi l'expression, que le blabla est bon. Mais ce n'est pas forcément ce que la parole de Dieu dit. Dieu nous encourage à quoi? À que nous marchions auprès de lui. À que nous soyons celui qui en répond, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Mais avec sa vérité devant moi. On va terminer en chantant un chant.